Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, c'est donc l'heure du live. J'ai mis le son beaucoup trop fort, c'était l'orage donne dans mon jeu, c'est une catastrophe. J'ai oublié d'ouvrir le chat, ça va être embêtant si je ne vous vois pas, voilà, ce sera mieux avec le chat. Bref, donc bonjour, oui bienvenue, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live et c'est l'heure du Pirate Talk. Un Pirate Talk un peu différent d'habitude puisque déjà je suis tout seul. Je suis un petit peu malade encore, je suis en rémission de maladie. Rien de grave, vous inquiétez pas, c'est juste un gros rhume. Mais globalement, j'étais... Ouais, je vais baisser le son quand même, le jeu est très fort. Je pense que j'ai mis le jeu beaucoup trop fort. Attends. Voilà. Oui, j'avais juste pas baissé du tout en fait. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Orage de désespoir, exactement. Donc oui, je me remets tout juste d'un bon gros rhume qui m'a bien secoué pendant 2-3 jours. C'est pas le Covid. Vous ne risquez rien en regardant ce live, vous n'attraperez pas le Covid. Et donc, je vais essayer de tousser le moins possible pendant le live, parce que sinon, c'est pas agréable, j'en conviens. Et du coup, oui, je suis tout seul, parce que mon équipage m'a lâchement déserté. C'est mutiné, je ne sais pas comment vous voulez qu'on le dise. Je vais quand même activer le chat vocal, s'il y en a qui veulent passer dans le Discord pendant le live. Voilà. Donc je suis quand même dispo dans le chat Discord, donc n'hésitez pas. Mais donc ce sera du gaming tout seul et j'essaierai en même temps de jouer mon petit bateau tout en vous racontant les choses de la semaine. Alors même si, de fait, ayant été malade, j'ai pas non plus une liste incroyable de sujets. Si les antivirus sont à jour, on ne risquera pas de choper ton rhume. Exactement. Je disais j'étais tout seul. Pas tout à fait. J'ai avec moi mon fidèle compagnon, ici présent. Voilà. Avec son petit chapeau et son petit gilet. Voilà. On va le mettre à l'abri parce que c'est un chat. Il n'aime pas être mouillé. Tiens, on va le poser sur la table. On peut pas le mettre sur la table. On peut le mettre là. Allez, casse-toi. Démerde-toi. Voilà. Donc, bref. Il y a déjà l'eau jusqu'à hauteur de jusqu'au genou dans la cale, c'est super. Bon, petit démarrage tranquillou. Qu'est-ce qu'on va faire? Le plus simple, je pense que c'est qu'on va aller prendre des cartes. On va aller creuser des trésors. Comme ça, ça va nous occuper tranquillou pendant qu'on va parler des sujets d'actualité. Comment on accède au Discord? Tu tapes point d'exclamation de Discord. Alors par contre. Tu peux accéder au Discord, tu peux arriver dans le Discord, mais tu peux pas arriver dans le vocal. Le vocal, c'est que ceux pour qui sont déjà sur le Discord depuis la fois précédente, en fait, si tu veux. Sinon, tu n'as pas le statut qui te permet d'accéder au vocal. Donc, même si tu t'invites maintenant, tu pourras pas accéder au vocal aujourd'hui. Et mesure de précaution pour éviter les trolls. Vous-même, vous savez, la vie de streamer, c'est pas une vie facile. Bon bref, en tout cas, on est où là sur la carte? J'ai juste repéré où je suis dans les Wilds. Je vais prendre deux cartes des Wilds et puis on va se promener comme ça tranquillement. On va chillax sous la pluie, hein, c'est pas grave. En plus dehors, il fait beau. Pour une fois qu'il fait beau dehors, c'est dans le jeu qui fait mauvais, c'est magnifique. Donc les Wilds, c'est celle-là. Elles sont toutes les deux au même endroit, ok. Voilà, je me suis pris deux petites cartes pour les Wilds. À Suken Row, comme ça on ira se promener par là-dedans. Et donc du coup, j'ai pas dit bonjour au chat. Je suis impoli, je m'en excuse. Donc bonjour Pendant Lac, bonjour The Vito 10, bonjour Cabot, bonjour Sundays, bonjour Iti, bonjour Elrod, bonjour Electronic Man, bonjour Alone C3301, bonjour Asborg, bonjour Tenkensan, bonjour E.O. Wells 42, bonjour Alice Lab 404, Et est-ce que j'ai dit tout le monde? Bonjour Atercop, bonjour Mikescope 2009, bonjour Adèle 246, et bonjour tous ceux qui n'ont pas encore dit bonjour, trop tard, voilà, je viens de rattraper la liste. Maintenant si vous dites bonjour, je vous dirai pas bonjour, si, bonjour à tous bien sûr. Excusez-moi, j'ai mis un petit peu de temps, mais parce que voilà, on sent l'effet des microbes qui ralentissent la progression intellectuelle. Alors évidemment, en plus, bon, j'ai... C'est pas de ma faute, parce que moi, mes lives sont réguliers, mais il se trouve que ce live tombe entre deux événements qui, évidemment, je pense, vous passionnent beaucoup plus, à savoir, d'un côté, donc, les élections, hein, je pense que vous en avez entendu parler, il y a des élections en ce moment, et aussi, d'un autre côté, il y a la ZILAN. Je pense pas qu'elle soit finie encore à cette heure-là, Je crois qu'elle finit que ce soir. Donc forcément, ah oui, bonjour Full Pitch. Bonjour Full Pitch, je te l'accorde. Et bonjour à Cœur Vaillant, bien sûr. Donc oui, il y a les élections et il y a la Zilane. Donc entre ces deux grands événements, c'est sûr que mon petit live tranquillou-pilou de papotage, bah, il n'est pas très à côté. Donc forcément, je ne m'attends pas à une foule incroyable parmi vous. Mais c'est pas grave. Je vois qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont fait l'effort. Et même moi, vous voyez, je suis là. Je me déplace malgré les microbes qui me rongent et qui m'assaillent de toutes parts. Et du coup, c'est l'occasion jamais. Parce que j'ai noté quelques sujets, mais je n'ai pas eu le temps de les creuser autant que je voulais. Donc il y a quelques sujets dont je vais vous parler, bien sûr. Vous savez, j'ai toujours mon petit post-it. Mais n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous voulez voir évoqués dans ce live, eh bien, il y a de la place, pour une fois. Je devrais parler un peu moins. Et d'habitude, enfin, si, non, je suis tout seul, je vais parler tout le temps. Mais je veux dire, je vais vous laisser un peu plus de temps pour pouvoir lancer vos sujets, si vous voulez. Alors, déjà, on va peut-être passer le premier, qui est le plus évident. Hein. Aujourd'hui, c'est les élections. J'espère que vous avez tous fait l'effort d'aller voter. Je suis, vous le savez, un partisan du votage, hein, que de l'abstention. L'abstention n'est pas mon truc. Je préfère quand même que les gens aillent voter au premier tour. Au deuxième tour, après, c'est une autre cacaillerie. Mais au premier tour, en général, je suis quand même plutôt un partisan, pas un militant, on va pas aller jusque-là, mais un partisan d'aller voter. Donc moi, j'ai voté. Hein. Vous pouvez voter blanc, après, c'est pas mon problème. Hein, mais j'aime bien que les gens aillent voter. Donc, si vous avez voté, bravo à vous. Si vous n'avez pas encore voté, vous avez encore le temps, puisque c'est 19h normalement, voire 20h dans les grandes villes. Donc il y a moyen encore hein, de vous rattraper. C'est pas long. Alors c'est vrai qu'on aimerait tous pouvoir voter, je veux dire, à distance. Hein, juste on prend son portable, on vote, et puis voilà, c'est fait. Ça serait bien. Il y a un autre monde où ça pourrait être fait, parce que en fait, il existe déjà des... Comment dire, des chercheurs internationaux qui ont longuement, des chercheurs en sécurité, j'entends, ont longuement étudié le principe du vote numérique. Et il y a des solutions. Alors après, on peut pas exactement avoir une... Enfin, on a des avantages et des inconvénients quoi, au vote électronique. Alors pas le vote électronique, les machines à voter, hein, telles qu'elles existent actuellement, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde en général. Mais il existe des principes qui permettent de... s'ils étaient mis en application, de voter de manière électronique. Pour l'instant, il n'y a pas eu de cas concret d'élections dans le monde qui se servent de ces systèmes-là, mais il y a déjà des chercheurs qui, sur le papier, ont fait la théorie du vote électronique et ont des schémas, des solutions qui sont à peu près abouties, qui permettraient de globalement avoir du vote électronique propre, d'un point de vue sécure, hein, j'entends. La problématique, je crois, la plus importante, c'est s'il fallait faire des recomptes de voix. C'est plus là où le système pêche, parce que autant sur un vote papier, le recompte, c'est littéralement on recompte les papiers, quoi. Donc on peut effectivement, il y a quelque chose de matériel qui permet de démontrer que le recompte sert à quelque chose. Sur un vote électronique, le recomptage n'a pas vraiment de sens en fait, et donc ça enlève une certaine forme de filet de sécurité si jamais il y a eu un bug informatique. Et du coup, c'est une des problématiques du vote électronique que n'a pas le vote physique, en fait. C'est le recomptage est une problématique très complexe dans le vote électronique, alors que dans le vote papier, c'est pas du tout une problématique en compte, ouais, bêtement. Mais pour le reste, le vote électronique a plein d'avantages. Encore une fois, s'il était mis en place tel que les chercheurs l'envisagent, hein, pas tel que les machines électroniques existent actuellement, parce que c'est un peu de la merde. Mais il peut donc permettre déjà de voter à distance. C'est le confort, hein, de voter depuis chez soi, ça serait quand même un grand luxe. Après, il y a tout ce qui est facilité de procuration, facilité d'usage, hein, d'accessibilité pour plein de gens. Donc ça permettrait de ramener plein de monde qui sont justement dans le camp des abstentionnistes vers le vote. Après, c'est pas dit qu'ils voteraient plus autre chose, quoi, hein, mais parce que bah c'est pas pour autant que les candidats les intéresseraient. Vous voyez, il y a ceux qui ne vont pas voter parce que bah c'est chiant d'aller au bureau de vote, Mais c'est pas tout le monde des abstentionnistes. On a, je sais plus, je crois qu'ils estiment qu'on sera dans les 30% d'abstention au présidentiel, là. Celle qui est d'aujourd'hui. Je pense pas que les 30%, ce soit juste 30% de gens qui veulent pas se déplacer, quoi. C'est pas ça le cœur du truc. Mais, clairement, t'as une petite appli, t'appuies sur ton bouton voter. À partir du moment où c'est vachement sécurisé, que tu peux, t'as une certitude que voilà, ton vote, il est pas détourné. Clairement, c'est un confort incroyable qui, je pense, ramènerait des gens vers le vote. Il me semble que les Suisses proposent le code source de la machine de vote. Alors, pour du bon outil, oui, c'est ça. En fait, les Suisses. Alors, en fait, il faut savoir que les Suisses ont une grande tradition de vote, en fait. Ils votent tout le temps. Je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est à France Info que j'ai entendu ça. Que la totalité des votes. Enfin, le volume de votes suisses, ça représente la moitié du volume de vote mondial, en fait. Parce qu'en fait, ils votent tout le temps, les Suisses. Ils ont des tas de référendums, ils ont des tas de trucs d'initiatives citoyennes, vous savez, là, des référendums qui sont déclenchés par les citoyens. On leur demande tout le temps leur avis sur plein plein de trucs. Donc, en fait, institutionnellement, ouais, les Suisses, ils votent beaucoup. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, beaucoup. Donc, et apparemment, vraiment, à l'échelle mondiale, c'est le pays où ça représente à lui tout seul 50% des votes dans le monde, quoi. C'est assez hallucinant. Bon, après, il y a des pays qui votent pas du tout, donc forcément ça équilibre. Mais tout de même. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, les Suisses sont quand même assez à la pointe là-dessus, sur le vote électronique, du coup. Et justement, alors je ne sais plus quelle était la dernière grande élection en Suisse. Je suis pas suisse, malheureusement. Donc j'ai pas forcément tout bien suivi, mais je sais que parmi les dernières grandes élections qu'ils ont connues. Effectivement, ils avaient demandé à plusieurs chercheurs d'analyser leur code et tout. Et notamment, évidemment, je ne vais pas avoir noté son nom, je vais l'avoir oublié. Il y a une personne que je suis sur Twitter, une dame qui bosse dans la cybersécurité, qui est extrêmement spécialisée de ces questions-là de vote électronique, qui avait participé justement du coup à l'analyse du code de vote suisse et qui avait dit qu'il n'était pas si mal. Tu vois. En l'état, c'était un des moins pires, quoi. Après, le problème, c'est que quand on veut parler de vote électronique, il faudrait revoir en profondeur le mécanisme, quoi. C'est pas le principe des machines à voter, c'est pas, on peut pas statuer là-dessus, quoi. Faut des choses beaucoup plus complexes que ça, avec des échanges de clés et tout, et des systèmes d'authentification, d'identification. C'est toujours un peu. En fait, là où vous voyez, en fait, la problématique, c'est que ton vote, il faut qu'il soit pris en compte. Il faut donc qu'il soit, comment dire, associé à ton nom quelque part. Et en France, on vote de manière anonyme, évidemment, on est caché, etc. Mais du coup, il faut un système assez tordu pour d'un côté dire que ton vote existe en tant que tel unique parce qu'il est associé à ton nom, tu vois. Tu peux pas voter deux fois et on peut pas voter à ta place. Donc il y a quand même un lien avec ton nom sans qu'on ait le contenu de ton vote. Et ton vote en lui-même, le nom que tu as voté, il n'est pas associé à ton nom, mais il est relié à ton nom dans le sens où personne d'autre a voté ton nom, quoi. Enfin, a voté ton bulletin. Vous voyez l'idée? Et donc, du coup, ça, quand on fait du vote électronique, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre parce que forcément, le vote électronique, lui, va être beaucoup plus clair. Tu as tout un tas de mécanismes qui te permettent je sais pas, avec des clés, des choses comme ça, de dire moi, je suis moi, et donc je mets mon vote. Mais après, il faut anonymiser ça. Mais il faut l'anonymiser tout en gardant ce lien de une personne, un vote. Et donc voilà, bon, les chercheurs ont beaucoup bossé là-dessus. En l'espèce, les machines à voter sont le moins pire des solutions dans le vote électronique, mais c'est pas encore ça, enfin celle des Suisses en tout cas, j'entends. Mais c'est pas encore ça, et clairement, il y a du taf pour améliorer les choses. Et je vous dis, si on appliquait les modèles des chercheurs, il existe hein, des modèles sur le papier qui permettent de faire du vrai vote électronique balèze. Et d'ailleurs, cette dame-là, donc j'ai encore une fois oublié le nom, je vais quand même le ressortir parce que. Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que je vais le retrouver? En fait, cette dame-là a utilisé en fait ses travaux sur justement cette espèce d'authentification, anonymisation, l'espèce de mix des deux entre j'ai besoin que personne n'usurpe mon identité, mais j'ai besoin que mon identité ne soit pas connue. Vous voyez, je dois être anonyme, mais pas usurpé. C'est compliqué comme problématique. Et en fait, elle s'est servie de ce qu'elle avait étudié au niveau des votes électroniques, de son expertise là-dedans, pour faire un proto, alors je ne sais pas où il en est d'ailleurs, un proto de messagerie type Signal, là, de messagerie SMS, web, WhatsApp, machin, hein, Messenger, quoi, si vous voulez. Donc elle a un proto de ça, qui a un nom imprononçable aussi d'ailleurs. Commence par un C, c'est tout ce que je me rappelle. Vous voyez, c'est dire si mon cerveau est mauvais. Et en fait, elle a appliqué les mêmes principes de je suis authentifié de manière très forte, très sécure, mais pour autant je suis anonyme sur le réseau sur lequel je discute de manière très anonyme. C'est très compliqué à lier les deux, hein. C'est très compliqué. Mais donc voilà, cette chercheuse-là, entre autres, a travaillé sur la question. Et donc les systèmes existent, hein. Après, faut les mettre en œuvre. Mais donc, comme on n'a pas de vote électronique en France, je ne pense pas que ce soit l'ordre du jour, hein, honnêtement. Pour revenir à ma phrase de départ, moi, j'espère que vous avez été votés. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. Exactement. Le vote est un devoir citoyen. Oui, alors après, on a une problématique de fond en France, hein, surtout là, ces dernières élections. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, ces dernières élections m'ont été pénibles. Enfin, elles ne sont pas finies encore, hein, mais cette présidentielle est très pénible parce que, à force que chaque année on vote pour le moins pire, et chaque année il y a de plus en plus de pire. Vous voyez? Donc là, en fait, cette année, pour moi, il n'y a que des mauvais candidats. J'avais fait un QCM, je ne sais plus où c'était, où ils demandaient juste de te dire parmi les candidats actuels, lesquels tu trouvais présidentiables, j'en ai mis aucun. Voilà. Pour moi, concrètement, il n'y en a aucun qui mérite aujourd'hui d'être président. Les candidats, j'entends, hein, pas les programmes. Mais les individus. C'était vraiment jugé juste comme ça sur la personnalité de la personne, quoi, du candidat. Et pour moi, il n'y en a aucun qui a l'étoffe d'être président. Soit parce que c'est des truands, soit parce que c'est des menteurs, soit parce que c'est des petites épaules. Hein, je veux dire, typiquement, j'aime bien Poutou, mais Poutou, je ne le vois pas président. Hein, je ne le vois pas face à. Dans une discussion internationale, dans un G7. Bon, il distribuerait des claques, c'est sûr, mais il. Ça ne ferait pas beaucoup avancer le sujet. Donc, il y a comme ça toute une série de candidats qui, même s'ils sont cool, tu les vois pas président. Et puis il y en a d'autres, c'est des gros salopards. Et moi, j'estime que t'as pas besoin d'être un salopard pour faire de la politique. Enfin, tu devrais pas avoir besoin d'être un salopard. Et donc, je veux essayer de trouver un pas salopard, ce qui du coup, forcément, est très compliqué dans les élections actuelles. Et donc, j'ai voté, mais c'était pas facile. Mais donc, du coup, le vote est un devoir citoyen. Je peux comprendre que actuellement, c'est chaud, quoi. Je veux dire, là, quelqu'un me dit, j'ai pas envie de voter au premier tour. Dès le premier tour, je vais pas aller l'engueuler. Hein. Pour moi, je comprends sa peine, quoi. Hein, on va dire ça. Je conçois bien que c'est difficile pour lui, quoi. Malheureusement, le vote blanc ne sert à rien, l'abstention est beaucoup plus regardée. C'est l'éternel débat. Alors, à une époque, c'était full vrai, c'est-à-dire qu'on comptait pas le vote blanc. Le vote blanc était compté comme un nul. Et donc, du coup, forcément, ça servait à rien. Le problème, c'est que depuis que maintenant on le compte, en fait, on n'a jamais eu vraiment de mouvement de foule vers le vote blanc. C'est-à-dire que, justement, comme il y a cette espèce de discours habituel que le vote blanc sert à rien, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que le vote blanc sert à rien, donc on n'en fait pas. Donc en fait, il y a très peu de vote blanc chaque élection. C'est de l'ordre du, je sais plus, du 1-2% de vote blanc. Blanc, hein, pas nul. Vraiment blanc pur. Et du coup, en fait, on peut pas savoir s'il sert à quelque chose puisqu'on l'a jamais essayé, en fait. C'est un peu ça l'idée. S'il y avait 30% de vote blanc, je pense qu'on le regarderait autant que s'il y a 30% d'abstention. Et même encore, vous voyez, maintenant, 30% d'abstention, les gens s'en foutent. Enfin, je veux dire, les médias ont déjà préparé tout le monde là-dessus. Aux européennes, il y avait eu je sais pas combien d'abstentions. Ça a pas. À chaque fois, les médias ils disent, ah, oh, c'est malheureux, il y a de l'abstention. Mais bon, voilà, ça va pas remettre en jeu l'élection pour autant. Donc, pour moi, un vote blanc serait beaucoup plus. Si on avait 30% de vote blanc. Ce ne serait pas le même message que 30% d'abstention. Mais bon, on n'a pas 30% de vote blanc, donc après. Et je, encore une fois, on a tellement été poussé à être dégoûté de la politique que je peux comprendre le ras-le-bol des gens qui sont dégoûtés de la politique. Du coup, ça me paraît tout à fait légitime. C'est un peu le piège, malheureusement, mais c'est comme ça. Heure 2 ce matin, ça va. Ah, 8h. Je crois qu'il ouvrait qu'à 9h mon bureau de vote, moi. J'y étais à 10h, hein, le temps de m'habiller tranquille. Je suis pas. J'aime bien voter, mais voilà, je ne veux pas non plus. Je me lève d'abord. Hein. Je me lave, je m'habille. J'ai l'air présentable avant d'aller au bureau de vote, quand même, même dans mon petit village. Alors, y a-t-il dans les programmes des choses intéressantes en rapport à la sécurité? Très bonne question. Honnêtement, alors, j'ai pas regardé tous les programmes en détail. Mais sur les en tout cas sur les professions de foi, il n'y en a aucun, strictement aucun, qui parle ne serait-ce que de numérique en fait. Même Macron, franchement, alors j'ai peut-être un trou de mémoire, mais franchement, il n'y a pas eu de programme qui mettait vraiment en avant le numérique en général, et donc la cyber en particulier. Pour moi, ouais, non, pour moi, c'est pas du tout dans les programmes. Alors après, je sais pas, par exemple, Mélenchon, je sais qu'il a écrit tout un bouquin là, avec son programme. Il fait 500 pages. Il est gentil, il fait payer. Il aurait pu le mettre en ligne, mais bon, à moins qu'il soit en ligne, d'ailleurs, je sais pas. Mais bon, personne va se taper les 500 pages de mesures. Donc du coup, je ne sais pas s'il parle de cyber dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire en tout cas que sur le quinquennat de Macron, là, qui vient de se dérouler, la cyber, elle est. Ah, c'était mi-figue, mi-raisin, on va dire. En termes de. Comment dire? De politique nationale, on n'a pas eu grand-chose de cyber. Il y a eu le portail Cybermalveillance, qui était une bonne idée, qui a été fait sur le quinquennat Macron, qui est en fait une espèce d'annuaire d'entreprises, de boîtes qui font de la cyber à destination des particuliers. En fait, c'est un portail où toi, en tant que particulier, tu dis j'ai un problème informatique. Oh, tu as tout un espèce de QCM qui va te diriger vers quelle est probablement la bonne définition de ta problématique. Est-ce que c'est un rançongiciel? Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est, je sais pas, une arnaque au support téléphonique? Enfin, c'est assez large hein, comme portail. À la fin, il va te donner une petite fiche avec des explications. Enfin, d'ailleurs, pas que à la fin, tu peux consulter les fiches. Tu as un certain nombre de fiches d'aide sur voilà, qu'est-ce qui sont les bons gestes à adopter, les bonnes attitudes, etc. C'est plutôt bien foutu. C'est en collaboration avec l'ANSSI, hein, évidemment. Donc, il y a pas mal de bonnes idées là-dedans. Donc, ça, c'était un truc plutôt bien. Mais à côté de ça, on a eu combien? On a eu deux ministres du numérique. Bon, cela dit. Bon, le deuxième, bon voilà, Cédric O, qui est ministre du numérique, mais qui sait pas ce que c'est le numérique, hein, globalement. Pour faire simple, hein, c'est comme si moi j'étais ministre des boulangers, alors que j'ai jamais fait boulangerie de ma vie. Hein. Je sais à quoi ressemble un boulanger, mais je suis pas boulanger. Bah, Cédric O, c'est un peu ça, hein, globalement. Il sait à quoi ça ressemble un ordinateur, mais il doit pas y toucher souvent. Globalement. Hein, donc, forcément, tant que lui était en poste, on va dire que le numérique, on l'a pas trop vu passer. Celui d'avant, merde, comment il s'appelait? Comment il s'appelait celui d'avant? C'était le ministre précédent allait bosser chez Microsoft comme commercial. C'est un peu ça, ouais, globalement. Mais celui qu'on avait avant était, alors je l'aimais pas trop, hein, mais il était quand même très très fanatique du numérique. Tu sentais que c'était un startup nation là à fond. Mounir? Je crois que c'était Mounir qui s'appelait. Ou Mounir, non, Mounir c'est Koh-Lanta. C'est Mounir, voilà, Mounir Moujoubi. Excuse-moi, je l'appelle Mounir, je ne sais pas comment on prononce son nom, je ne me rappelle plus. Mais du coup, ouais, il était. Alors, il n'allait pas dans le sens qui, moi, me plaisait, si tu veux, mais en tout cas, on ne peut pas lui retirer qu'il s'y connaissait en numérique, et vraiment, tu sentais qu'il avait grandi dedans. Hein, globalement, il avait des tas d'idées, et bon, elles n'étaient pas toutes bonnes, mais il avait envie de faire bouger des choses, quoi. Donc on peut au moins lui reconnaître ça. Ouais, voilà. Donc on a eu deux ministres un peu, voilà, un motivé mais qui faisait pas des trucs super terribles, un absent globalement qui a rien fait. Hein, et puis donc un portail en termes de cyber, on a eu un portail. L'ANSSI a pas spécialement été plus mis en avant que ça. Voilà, il n'y a pas eu une politique cyber incroyable. Donc sur le quinquennat de Macron, voilà, c'est plutôt, on va dire, neutre à l'arrivée. Malgré les appels à la French Tech de départ, la French Tech aujourd'hui c'est la risée. Enfin, je veux dire, personne dans l'international dit ne dit la French Tech, sauf la French Tech, quoi, hein, globalement. Ça n'a aucune existence vraiment pertinente, en tout cas. À part, si, ça a servi à faire lever des sous, quoi. Hein, mais concrètement, techniquement parlant, ça n'a rien apporté. Et donc, voilà. Donc, au moins sur ce quinquennat-là, on ne peut pas dire que, malgré l'aspect jeunesse de Macron, malgré l'aspect Startup Nation, etc., on ne peut pas dire qu'on ait eu un élan incroyable numérique. Après, chez les autres candidats, bah, je ne sais pas trop, en fait. J'avais analysé pour rigoler les outils qu'ils avaient fait pour faire leur profession de foi. Et globalement, le plus moderne, c'était Lassalle. Bizarrement, bon, c'est pas lui, c'est son équipe de com, hein, mais Lassalle qui avait utilisé un outil dans le cloud, en fait, hein, qui est un outil open source dans le cloud. Donc, c'était le plus moderne dans le tas pour faire sa profession de foi. Tous les autres avaient utilisé du Adobe. Hein, je sais plus ce que c'était, c'était Adobe quelque chose. Mais voilà, c'était pas non plus. Dans les profils des candidats, j'en ai pas vu qui étaient absolument incroyables numériques. J'imagine que Mélenchon est peut-être un peu plus dedans avec toute sa histoire d'hologramme. Mais bon, ça, c'est de la com, c'est pour faire rigolo. Mais il a l'air d'être un peu présent sur Twitch aussi, enfin de. Conscient de ce que c'est, donc on va dire peut-être plus raccord avec le monde d'aujourd'hui, alors que les autres sont peut-être plus un peu dans le passé, dans le conservatisme, etc. Mais bon, de là à dire qu'il soit particulièrement, enfin même Mélenchon, hein, qu'il soit particulièrement terné sur la cyber, j'ai pas lu de ligne dans le programme qui parlait de la cybersécurité. Peut-être que vous en avez vu, hein, je ne sais pas. Je rattrape un peu le chat. J'ai une idée, la tongue connectée USB, génial, on monte une start-up. C'est lever des sous est le plus important pour tout le monde, donc la French Tech a fait le taf. Hein? Bah non, en fait. Enfin, pour toi, peut-être c'est important d'avoir de l'argent. Moi, en tant qu'expert cybersécurité, l'important, c'est pas que les gens soient riches, c'est que les gens soient sécurisés, en fait. C'est bizarre ta question en fait. Enfin, ta phrase. Lever des sous, c'est important quand t'es une entreprise. Oui, d'accord, ok, mais on est un pays, on n'est pas une entreprise. Donc, un politique, son but, c'est pas de faire de l'argent. Un politique, son but, c'est de faire avancer le pays. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon opinion. Donc, si, c'est un mauvais bilan que d'avoir juste des licornes qui ont levé des sous, quoi. T'as rien innové, enfin si t'as vraiment rien apporté de technologique intéressant, t'as rien amené comme progrès social, économique, technique, non, c'est nul. On s'en fout en fait que t'aies de l'argent. Surtout que c'est de l'argent sur une boîte privée, c'est pas de l'argent pour l'entreprise, enfin pour le pays, quoi. À la limite, ce serait, je sais pas, tout l'argent que pompe la French Tech, ce serait reversé dans les caisses de l'État. Oui, ok, super. Voilà, ça alimente les caisses de l'État. Pour d'un point de vue politique, c'est très bien, super. Mais là, en l'occurrence, c'était pas ça. C'était un politique qui. La French Tech, c'est un truc pour que des startups gagnent des sous. Ça fait progresser personne, sauf le mec qui gagne des sous. Donc, bah, ça n'a aucun intérêt, enfin, pour moi, en tout cas. Lever des fonds, ouais, non, c'est pas une fin en soi, quoi. Pas une fin en soi. La French Tech, c'est globalement résumé à des fils de notables qui se font financer leur bouchée numérique par les tontons du carnet d'adresse. Bah, comme un peu la Silicon Valley. Enfin, peut-être moins la Silicon Valley, parce qu'elle a quand même produit des trucs. Mais comme toutes les startups de l'univers, hein, c'était la période startup. D'ailleurs, la French Tech, on n'en parle plus tellement. La mode startup est un peu passée, hein, globalement. C'est plus vraiment l'actualité aujourd'hui. Certains candidats parlent de souveraineté numérique. Ouais. Ouais, ça, alors ça, c'est un autre sujet. C'est vrai que c'est un peu particulier parce que on a. Enfin, Je comprends l'idée, c'est-à-dire que souveraineté numérique, c'est effectivement bien pour protéger ta donnée de d'entreprises extérieures, tu vois, de la mondialisation qui poserait problème. Sauf que ça te protège pas des entreprises en interne déjà, d'une part. Donc je suis content que la souveraineté numérique, enfin s'il y en avait une, m'empêcherait par exemple de me faire avoir par Google, de me faire voler mes données par Google. Mais pour autant, je me ferais voler mes données par Orange. Tu vois, enfin, dans l'absolu, je me fais quand même de voler mes données. Donc c'est pas forcément utile pour l'utilisateur final, quoi. La souveraineté numérique, c'est assez illusoire en fait, parce que globalement, le problème, c'est pas d'empêcher les pays voisins de te voler, c'est d'empêcher tout le monde de te voler en fait et d'abuser de tes données. En ce sens-là, un des grands trucs du enfin qui est arrivé pendant le quinquennat, mais qui a rien à voir avec Macron, c'est le RGPD. Ça, c'est une pure avancée dans le monde de la cybersécurité. Oui, même de la cybersécurité, et dans le monde de la donnée privée, du coup, c'est une loi européenne qui est génialissime. En fait, quand j'en ai entendu parler, j'en ai entendu parler sur le tard quand elle avait été votée, je me suis dit, j'ai pas compris comment elle avait été votée, en fait. Comment c'était possible qu'une loi aussi protectrice, justement, efficace dans sa protection, ait été votée? Sans que personne ne l'en empêche, vous voyez, parce qu'on était dans, allez, c'est quoi, c'est 2008, 2018, pardon, le RGPD, quand il est entré en application. Et donc, un petit peu avant, on était quand même dans un monde où c'était les GAFAM qui faisaient la loi, et donc, tout le monde avait des intérêts financiers à ce que ce soit Google ou Microsoft ou Apple, machin, qui récupère la barre. Mais globalement, le RGPD tel qu'il a été conçu, emmerder toutes les entreprises. Et c'est beau qu'il ait réussi à être voté, vous voyez. Après, forcément, ça a fait gueuler tout le monde, et il n'est pas toujours bien appliqué, etc. Mais d'un point de vue théorique, c'est une hyper bonne avancée pour la protection des données des individus. Après, maintenant, il faut l'appliquer. Ça, c'est un autre débat. Ça a été appliqué plus ou moins bien suivant les endroits, mais clairement, ça, pour le coup, c'est un vrai progrès. Donc, il y a l'Europe, là, pour le coup. C'est pour ça que je suis plutôt. Parce qu'il est lié au Parti Pirate, hein, globalement, si je ne m'abuse. Hein, ça, c'est un projet de longue date du Parti Pirate. Du Parti Pirate originel, hein, celui de Suède. Il me semble que c'est lui qui a porté le truc au départ, ce genre de projet-là. Et donc. Voilà, ça c'était un vrai progrès. C'est pas un truc qui fait gagner de l'argent. Quoique, il y a des secteurs qui ont pas mal gagné de l'argent en faisant des audits RGPD, il y a une mise en œuvre et tout, comme ça, qui crée des emplois. Donc, si, il y a quand même de l'argent en jeu. Mais c'est pas le principe de la Startup Nation où je lève 1 million et je suis tout seul, tu vois. C'est pas un individu qui s'est enrichi. C'est globalement une protection globale du monde, des individus. Et en plus, cette loi-là est tellement bien foutue qu'elle fait tache d'huile sur les autres pays. Donc, les Américains ont dû s'aligner. Surtout les Américains d'ailleurs, globalement. Et ça fait, voilà, ça fait contagion un peu partout. Et donc, globalement, ça s'est bien imposé, quoi. Donc, franchement, sur ce coup-là, je ne sais pas comment ça a été voté, mais c'était génial que ce soit voté. Un vrai plus-plus, quoi. Mais du coup, c'était dans le programme d'aucun candidat. Et je crois pas avoir vu dans les professions de foi d'autres éléments là-dessus. La French Tech, non, ça j'ai déjà lu. Lever de l'argent supposé public pour des cercles fermés ne l'est pas trop. Et c'est ça, c'est en fait. Si tu lèves des sous et puis tu les donnes pas à l'État, autant. Enfin, moi je veux dire, j'ai rien contre une entreprise qui gagne des sous, mais je ne comprends pas pourquoi l'État aiderait une entreprise à gagner des sous. T'es une entreprise, tu te démerdes. Enfin, c'est. En plus, on est censé avoir un gouvernement qui est libéral, hein, globalement. Alors, c'est pas vrai. Hein. Je l'avais déjà expliqué, je pense pas dans un Pirate Talk, mais au moins sur Twitter. Macron, il est libéral que d'étiquette. Hein. Il est aussi libéral que moi, je suis marxiste. Enfin, non, je ne sais pas ce que c'est marxiste, mais il est aussi libéral que je suis FN. Voilà. Je ne suis pas FN, il n'est pas libéral. Hein. Libéral, c'est quand tu laisses les entreprises se démerder toutes seules. Il laisse absolument pas les entreprises se démerder toutes seules. Il n'arrête pas d'injecter des fonds publics dans les entreprises privées. et de leur filer tous les cadeaux gratuits, quoi, hein, globalement. Et puis c'est tout. Donc c'est pas ça que ça s'appelle le libéral. Le libéral, c'était une entreprise. T'arrives à t'en sortir tout seul, bah youpi. Et t'arrives pas à t'en sortir tout seul, bah tu crèves la bouche ouverte. Et puis voilà. C'est ça le libéralisme, en fait, hein, globalement. Donc ça, c'est pas du tout Macron. C'est plus FN, merde, je suis le dernier. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, donc bah j'espère que vous allez voter, que vous avez voté, puis on verra bien le résultat. Je vous cache pas que si Macron pouvait ne pas être au second tour, je serais très heureux. Mais ça n'arrivera pas, j'imagine. Parce qu'il y a encore des gens qui se font marcher dessus et qui aiment ça, manifestement. Il faut croire qu'on est un pourcentage en France de sadiques. Que plus tu les fais crever la bouche ouverte, plus ils sont contents. Écoute. Tant mieux pour vous. Si ça vous plaît comme résultat, on verra bien. Je résume pas des résultats. Hein. J'adorerais le voir se prendre une claque dès le premier tour. Bon, s'il s'en prend une le deuxième tour, c'est toujours ça de prix, mais une dès le premier, ça serait cool. À part ça, j'avais pas écrit que ça sur mon. Bon, c'était le gros sujet, évidemment. Hein. Globalement, il n'y avait pas que ça qui s'est passé dans la. Dans les derniers jours. Alors si, quand même, pour finir sur les élections, je vous avais déjà parlé, je crois, la dernière fois, enfin, je ne sais plus dans quel Pirate Talk, du fait de, comment dire, d'aller emmerder un peu les sites des candidats, tout ça. Personnellement, j'ai regardé un peu les sites des candidats, alors pas les plus gros, parce que ça ne m'intéressait pas, plutôt dans les petits, hein, vous voyez, genre Artaud, Lassalle, Poutou, Dupont-Aignan, des choses comme ça. Parce que c'est là qu'il y avait le plus de chances d'avoir des choses rigolotes. Malheureusement, à mon grand. Enfin, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Malheureusement pour le petit con hacker qui dort au fond de moi, et heureusement pour le consultant cybersécurité qui est devant vous, en fait, ils sont plutôt bien sécurisés, mine de rien. Les sites web des candidats étaient plutôt propres. Alors, ça tient en grande partie au fait qu'ils étaient quasiment tous sur WordPress. Et pas WordPress hébergé chez eux, quoi. WordPress hébergé sur la plateforme WordPress. Donc globalement, voilà, les patchs ils sont par défaut, tout est déjà sécurisé, quoi. Donc les pré-réglages sont bons. Donc ça tenait grosso modo à cet état de fait-là. Mais bon, faut reconnaître que on est malheureusement, heureusement, on n'est plus à cette époque de Christine Boutin qui avait un site où on pouvait lui faire dire ce qu'on voulait, quoi. Voilà. Donc on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la sécurisation globale du monde. C'est un bon échantillon de se dire si les 12 candidats ont des sites sécurisés, c'est que la sécurité progresse dans le monde, quoi. Voilà, dans la France en tout cas. N'oubliez juste pas que celui qui sera élu aura le pouvoir de décision sur l'arbre atomique. Je ne sais même pas si c'est vrai ça. Parce que, par exemple, on dit ça en Amérique. Je sais que ça avait été démenti parce qu'en fait. Justement, du temps de Trump, il s'inquiétait beaucoup de ça, en disant, bah ouais, mais Trump, il est complètement bête, et il a l'arme nucléaire. Mais en fait, il peut pas décider tout seul. Alors, après, il peut être entouré de gens qui font oui, mais quand même, quoi, il peut pas, je sais pas, imaginons qu'il ait un coup de folie, il peut pas appuyer sur le bouton tout seul, quoi. Même si la procédure est longue et compliquée, il peut pas la faire tout seul. En France, je sais pas si le président. Ah, déjà, c'est pas juste un bouton, oui, on est d'accord, mais je sais pas si la décision est unique ou si elle est quand même collégiale, comme en Amérique, du coup. En Amérique, je crois qu'il faut que tu vois avec deux, trois militaires, il y a un certain nombre de généraux en plus du président qui doivent contribuer, tu vois, pour pouvoir valider le truc. Alors, c'est vrai qu'en général, ils obéissent au président quand même, tu vois, mais bon, si on est vraiment face à un cas de folie pure. Normalement, t'as deux trois gars en face qui peuvent contre-pouvoir quoi. En France, je sais pas comment c'est foutu le déclenchement, la procédure nucléaire. Il a le dernier mot, même si c'est collégial, d'accord. J'en sais rien. Du coup, je crois sur parole. J'ai pas du tout regardé ça. Mais donc effectivement, ça reste quand même bon. Honnêtement, faudrait que. Enfin, je sais pas. Je sais pas. On sait jamais de quoi demain sera fait. Je pense pas que la France soit du genre, même sur un coup de folie, à balancer des bombes nucléaires partout, parce qu'on est quand même fondamentalement, ok, on peut avoir l'arme nucléaire, on peut être dans les puissants, etc., machin et tout bidou. on reste quand même géographiquement parlant, bêtement, matériellement parlant, un pays qui est pas si grand que ça en fait. Donc je veux dire, d'une manière purement mathématique, tu ne peux pas, même si tu mettais, genre, tu mets toute la population française dans l'armée, tu mets toute la population russe dans l'armée, tu mets toute la population chinoise dans l'armée, bah tu perds en fait en tant que Français. Tu fais pas le poids en fait, tu vois, la proportion est pas la même. Alors après, tu peux être meilleur technologiquement, etc. Mais il y a quand même un moment donné, ne serait-ce que par l'usure, si ça dure trop longtemps, le conflit, tu peux pas tenir. Et donc, ta bombe atomique, ok, tu l'as, tu fais peur, ça empêche la première attaque. Mais globalement, si vraiment le monde entier veut te la foutre à l'envers, c'est pas avec ta bombe atomique que tu vas changer quoi que ce soit en fait. Je serais même surpris que, je sais pas, imaginons scénario ultra catastrophe, quoi, hein, la Russie attaque toute l'Europe. Je suis même pas sûr que là on en balancerait une de bombe nucléaire. Honnêtement. Ou alors, enfin non, même pas, même pas. Je suis même pas sûr qu'on en balancerait une. On attaquerait de tas de choses différentes, tu vois, sur des villes, bombardements, machin, ça, ok. Mais la bombe nucléaire, t'as beau l'avoir, je suis pas sûr qu'il y en ait un seul qui oserait la lancer. C'est le principe de la guerre froide, hein. La dissuasion nucléaire, hein, on l'a déjà dit un million de fois, mais c'est ça. Et il y a vraiment qu'un fanatique qui dit, bon bah ok, apocalypse quoi, hein, qui lancerait une bombe nucléaire. Il n'y a pas de... Je vois pas de pays qui pense à après. Tu vois, un pays qui se dit, bon bah ok, je fais un conflit, mais j'aimerais gagner le conflit, tu vois, j'aimerais survivre derrière et continuer ma vie. Hein, je vois pas un pays qui se dit ça et qui en même temps peut sortir une bombe nucléaire. Et donc la France, pas plus que les autres, en fait. Donc finalement, l'avoir, ça compte pas, en fait. Que tu l'aies, que tu l'aies pas, on s'en fout, tu t'en serviras jamais, quoi. En tout cas, c'est mon avis. C'est mon avis. Du coup, pardon, Warrior, oui, ça fait depuis tout à l'heure, tu m'as dit Hello, comment vas-tu? Love, bah écoute, non, c'est quoi? C'est un emoji, ouais, je vois pas dans cette interface-là. Et bah du coup, bonjour à toi. Je vais moyennement. Je suis microbeux un peu. J'espère que ça s'entend pas trop, hein, mine de rien. Normalement, je la vois à peu près pas cassée, mais bon, faut se méfier. Un conseil de sécurité. Oui, il y a le conseil de sécurité. Bon, enfin bon, si c'est le même que pour le conseil de santé là, de sécurité, hein, le conseil de sécurité pour le Covid, j'ai l'impression que c'était surtout Macron, hein, globalement, que les autres, ils comptaient un peu pour du beurre. Donc je sais pas si c'est... Bon, si on déterrait des trésors, là, parce que j'ai une carte depuis tout à l'heure, j'ai rien déterré. Sauf si tous les Français sont dans le Charles de Gaulle. De quoi? Sauf si tous les Français sont dans des Charles de Gaulle. Sont dans le Charles de Gaulle. Bah, oui, enfin... C'est-à-dire qu'à un moment donné, un missile qui tombe sur le Charles de Gaulle, il n'y a plus de Français, quoi. Donc voilà. On reste physiquement un pays qui est pas plus grand que les autres et qui est même dans les plutôt petits. Donc même si tu posais, je sais pas, toutes les torpilles que tu pouvais sur le pays, genre tu veux utiliser toutes les usines que tu as en ta possession pour construire des armes, forcément t'en as moins que les gros pays, parce que t'es plus petit. Juste, tu peux pas construire autant d'usines et donc autant de munitions. Il y a des limites techniques, quoi. Alors, on n'envoie jamais grosse armée contre grosse armée, évidemment, c'est plutôt de la guérilla. Mais voilà, sur le principe, je pense que vous avez compris un peu ce que je voulais dire. On n'est pas n'importe qui, mais enfin, faut pas non plus déconner, quoi. Dans les films américains, c'est toujours les conseillers du président qui lui disent « Mais fais tout péter ». C'est vrai. C'est vrai. Et dans les films américains, c'est le président, c'est toujours celui qui veut pas. Mais non, je veux pas, j'ai peur d'abîmer les gens. Alors que bon, il y a juste des extraterrestres qui sont en train de pulvériser le noyau de ta planète, quoi. Mais bon, non, je veux pas. Des fois, ils ont quand même des pudeurs un petit peu. Mais bon, c'est les films hollywoodiens. Ça, c'est autre chose. En espérant que les ordis qui commandent le lancement des missiles ne sont pas sous Windows 10, un blue screen. Alors. Je crois que c'était le système américain que j'avais vu un reportage il y a longtemps, hein, il y a longtemps, mais enfin, il y a longtemps, il y a une dizaine d'années. Mais non, au contraire, ils sont très très vieux. Parce que les silos, tu les as pas, on les change pas, tu veux, une fois que c'est construit, c'est construit. Il me semble me souvenir qu'il y avait une partie justement de ce système atomique là. Donc ok, c'est pas une manette avec un bouton, hein, c'est un processus. Et après, tu as un ordre qui est réparti et qui a envoyé un certain nombre de centrales qui relaient, etc. Et en fait, non seulement, bah déjà ils font comment dire, des exercices de répétition régulièrement, mais ils sont bien obligés parce qu'en fait les systèmes sont archaïques de ouf, en fait. Et que si tu faisais pas des répètes, bah, en fait les gens qui sont face au système ne sauraient même pas comment faire, comment s'en servir. Je crois avoir vu des disquettes 5 pouces 1 quart sur un des reportages là-dessus. Il me semble qu'il y a, alors je sais plus du tout à quelle étape c'est du truc, mais il y avait un endroit où tu mettais une disquette 5 pouces 1 quart dedans, quoi. Donc c'est te dire, hein, le machin, il date de l'époque, hein, tout simplement. Hein, donc je crois qu'il y avait encore des systèmes analogiques utilisés il y a une quinzaine d'années. Ouais, non, ça ne m'étonnerait pas. Il y a une partie du système américain qui utilise encore un Commodore 60. Ça m'étonnerait pas aussi. Ah non, vraiment, tout ça me paraît tout à fait crédible. Donc, ouais. Peut-être que le nôtre en France c'est des Minitel, hein. Allez savoir. Peut-être qu'il faut faire 36-15 armes nucléaires pour avancer sur le lancement. Bah, on n'est pas rendu. Hein, putain. C'est 3 euros la minute là. Ah non, ce serait quelque chose. Les avions sont toujours mis à jour via disquette aussi d'ailleurs. Bah, je crois que c'est ça que j'avais vu. Enfin, c'était les avions plutôt. Mais c'est chouette, moi j'aime bien, parce que c'est mine de rien, c'est techno-robuste en fait. Ça a l'air de rien comme ça, mais alors pas les disquettes en elles-mêmes, mais l'ensemble du système derrière, quoi, c'est vachement robuste pour que, quoi, 50 ans après, même plus que ça maintenant, ça fait dans les années 50, c'était il y a 70 ans, oh, bordel. Putain, j'étais pas né dans les années 50, mais ça commence à faire vieux quand même. Donc c'est des systèmes qui vont bientôt avoir tranquillement leur petit siècle, quoi. Et qui, ça va, qui carbure. Faut pas leur en demander plus qu'ils savent faire, mais ils savent faire. Oh là. Attendez. Un gros crabier qui me surgit à la gueule. Parce que j'étais tranquillement en train d'expliquer des trucs. Aïe. Je suis coincé, frère. Allez, meurs. Rien à bouffer. Donc voilà. Tac tac tac. Le commandement de l'arme nucléaire français doit encore tourner sur des MO5. Peut-être. Mais c'est bien MO5. Non, c'était des TO7. J'avais travaillé sur les TO7. J'avais pas de MO5. Mais il y en avait dans les écoles à l'époque, hein, dans les primaires. Vous aviez des MO5, des TO7 qui avaient été distribués à toutes les écoles. Donc même dans ma petite commune de campagne et tout, on avait ça, c'était cool. On avait fait de l'informatique en CE1, quoi, vous voyez, CP, CE1. Non, c'était vachement fun. Bon, alors, avec tout ça, j'avais d'autres sujets quand même, et je vois que l'heure avance, mine de rien, on n'a parlé que des élections. Et quand même, il y avait d'autres sujets. Alors, du coup, attendez que j'aille vite. Honda. Honda, les voitures, ont une petite faille. C'est ballot, c'est baliballot même. Qui fait que en fait les clés, alors je crois c'est les Honda Civic, les clés des Honda Civic ou même plusieurs modèles en fait, quand vous appuyez sur la télécommande pour ouvrir la voiture ou pour changer ouvrir le coffre, faire verrouiller tout ça machin, en fait c'est des messages fixes. C'est-à-dire que alors j'imagine que c'est pas le même selon la voiture, tu dois avoir une clé d'authentification quand même, mais c'est toujours le même si tu appuies 5 fois sur le bouton, en fait. C'est pas, y a pas un time code, vous voyez? Donc, ce qui fait que ils ont réussi à exploiter cette vulnérabilité-là, justement, tout simplement en enregistrant le message. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui envoie avec sa télécommande, donc c'est des fréquences radio, en fait, hein, il appuie sur un bouton pour ouvrir la porte, bah, tu es à côté, tu as un poste qui capte les fréquences radio, tu enregistres, et ben voilà, tu peux ouvrir la porte. C'est tout con, mais bah, c'est une vulnérabilité énorme. Et donc, du coup, pas glop pour les Honda. Donc, il y a eu un rapport qu'il y a une vulnérabilité qui a été sortie là, il n'y a pas longtemps. T'es né en quelle année? 79. Donc j'ai 42, 43, non, j'ai pas encore 43. Ce sera en septembre. J'ai 42 pour l'instant. J'ai l'âge geek. J'ai l'âge geek. T'es au 7 à l'école et quand tu rentres à la maison, Amiga, du coup, t'avais plus envie d'aller à l'école. J'avais pas d'Amiga. J'avais un Atari, moi, mais ouais. J'aurais bien aimé. Je bavais devant les Amiga. Donc voilà. C'était pour vous entretenir un peu de l'actu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans l'actu? Ah, Amazon. Oui. Alors, bon, il y a eu une actu un peu politique où Amazon a eu son premier syndicat créé. Donc, au terme d'un. Je sais pas si c'était un procès, une procédure judiciaire ou je sais pas trop quoi, mais Amazon, le siège en Amérique, hein, dans ses locaux, maintenant, il y a un syndicat. Vous imaginez un peu le truc, un syndicat chez Amazon, chez les ricains, du coup. Donc, déjà, les syndicats chez les ricains, c'est pas le truc qu'ils apprécient le plus, mais alors chez Amazon, incroyable. Mais ça, à la limite, c'est pas de la cyber. Mais par contre, suite à ça, Amazon a mis en place. Une espèce de petite saloperie quand même, mais bon, qui n'étonne pas quand on connaît un peu les pratiques d'Amazon, qui en fait dans l'usine, dans Amazon, il y a tout un écosystème. De la même manière que par exemple quand tu es dans Google, quand tu bosses chez Google, tu as des outils Google du sol au plafond, tu manges, tu vis Google. Bon, bah Amazon, ils font un peu pareil, et notamment, ils ont un outil de messagerie interne, pour que les employés discutent entre eux en fait. Et donc, c'est l'équivalent d'un Teams, si vous voulez, hein, mais c'est pas Teams, c'est un truc spécifique Amazon. Et du coup, ils ont rajouté des filtres. Ils, c'est la direction, hein, les RH, bien sûr. Et en fait, ils ont banni tous les mots qui avaient un rapport avec le syndicalisme. Donc, ils ont banni syndicat, ils ont banni, je sais pas, grève, réunion, enfin, vous voyez, je dis des mots au pif, hein, mais il faudrait regarder la liste exacte sur Internet, mais globalement, ils ont banni tous les mots qui avaient un rapport avec le syndicalisme. Salut Noéman! Et du coup, et bah, forcément, ils se sont pris une tempête médiatique. Enfin, tempête, ils s'en foutent, hein, mais globalement, ça a fait jaser pas mal sur la toile. Parce que, bah voilà, quoi, super Amazon qui. Ils bannissent les mots, quoi. C'est vraiment, ils en sont à ce niveau-là de. C'est mesquin, quoi. C'est vraiment, on sait plus quoi faire pour se venger des syndicalistes, quoi. C'est 1984, oui, clairement, il y a de ça, quoi. C'est les mecs, au lieu de, bah, je sais pas, juste d'avoir des pratiques de business normales, ils en sont à, on va enlever les mots de la bouche des gens, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez surréaliste, un peu, quand même. Alors, est-ce qu'on voit une marque de choses qui auraient été enterrées dans le coin? Non, pas là. Je suis peut-être pas au bon endroit. Attendez, je regarde ma carte. J'essaie d'avoir la croix qui est au sud-est, là. Donc, peut-être si je regardais ma boussole et que je me rendais au sud-est de l'île, ben, j'y suis. Ça a l'air d'être là, en fait. Hein. Et je ne vois pas où ça a été enterré. Ouais, c'est au pif. Hein. Le pif gagnant. Attendez, si on regarde bien la carte. On serait en plein dans l'herbe, en plein dans l'herbe. En plein dans l'herbe, et disons là. Non. Si je tape juste à côté là. Non plus. Ah là. Là. Non. Je vais retourner tout le parterre. Hein. Ah, c'est là. Trouvé. Et donc voilà, Amazon, toujours dans sa. Enfin, je sais pas. Ils veulent vraiment pas avoir une bonne image. Je sais pas. Il y a un truc. Ils pourraient faire tellement de choses en fait. Mais non. Il faut qu'ils prennent le truc le plus mesquin qu'ils ont dans le répertoire, quoi, hein, de mesquinerie, quoi. Alors, ensuite, le clan PC est arrivé. Fin du game pour les Atari, les Amiga, les Amstrad, etc. Oui, j'ai eu un PC. Les meetings à la récré où on se passait des boîtes de disquettes. Bah, y ont le. Vous êtes en plein dans la nostalgie là. On est passé à un autre sujet, les gens là. On parle d'Amazon. Vous voulez. C'est parce que vous avez peur en fait d'Amazon. Vous préférez. Je comprends. Je comprends. Et donc bah voilà. On verra bien ce que ça donne. Mais maintenant ils ont un syndicat. Je sais pas s'ils en font quelque chose. Ils arriveront à faire quoi que ce soit. Tu me diras, il y a du boulot. Hein. Globalement, il y a du boulot avant que ils aient des pratiques au niveau des employés qui soient à peu près correctes. Et bah, je sais pas, j'imagine que du coup, les employés utilisent d'autres systèmes de messagerie. En fait, je sais pas à quel point c'est verrouillé. Est-ce qu'ils ont. Je serais pas surpris, par exemple, qu'ils aient pas accès à leur propre téléphone portable sur les heures de travail. Vous voyez, ce genre de choses. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. On embrasse Jeff, bien sûr. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur Twitch. C'est vrai que je dis du mal d'Amazon alors qu'on est sur Twitch. Est-ce que je viens pas de me faire ban, sans le savoir, de ma chaîne Twitch? Est-ce que je suis toujours live? Oui, vous me voyez? Ah, c'est vrai que j'ai oublié ce détail. Bon, c'est pas tout de suite que je serai riche sur Twitch, donc on va dire que c'est pas très grave. Les 70-30, ouais. Vous savez ça, en fait. Enfin, je sais pas si vous connaissez un peu le système des rémunérations sur Twitch. Mais en fait, de base, quand vous donnez un don, hein, Twitch prend 50. C'est 50-50. Il y en a 50 qui vont à Twitch, 50 pour moi. De ce que vous donnez, en fait, là, quand vous abonnez. Et en fait, quand vous êtes un peu populaire, je sais pas, il y a les privilégiés. J'imagine qu'il faut être partenaire Twitch déjà de base, mais bon, voilà. Quand vous progressez un peu dans le game, typiquement tous les gros streamers que vous connaissez, eux, ils n'ont pas 50-50, ils ont 70-30, voire plus. Et en fait, ils ont une plus grosse part, quoi. Ils ont 70% pour eux, 30% pour Twitch. Et Twitch fait ça parce que bah, ça permet de fidéliser la clientèle, vous voyez, de faire plaisir au gros, quoi. Donc forcément, moi, en disant du mal d'Amazon, effectivement, c'est pas demain la veille que j'aurai mon 70-30. Là, je suis allé visiter chez Plouh, vers Roubaix, ils avaient l'air heureux, les salariés, ou alors c'était des acteurs, je ne saurais jamais, ou des robots, ou des hologrammes créés par Mélenchon. En France, je pense pas que le problème soit le même, hein, clairement, là, c'est surtout un problème aux États-Unis. Mais alors, dans les usines, je sais pas trop parce que j'ai plus vu des reportages où ils enlevaient les employés en fait et ils remplaçaient tout par des robots. Voilà. L'idée c'était d'avoir des usines full automatique. Par contre, des reportages où tu voyais bien les conditions pourries de travail, c'était les livreurs. Les livreurs aux États-Unis, Amazon, enfin, je sais plus dans quel reportage j'ai vu ça, mais le mec il pissait dans les bouteilles quoi parce qu'il n'avait pas le temps d'aller faire sa pause quoi, hein, tout simplement. Donc c'était voilà, c'était pas des conditions normales, ça l'est toujours pas, parce que bah, ils doivent carburer à toute vitesse, ils ont un rendement à faire, enfin aux États-Unis c'est aux États-Unis et ailleurs, mais Amazon c'est gigantesque, hein, vous vous rendez pas compte. Donc évidemment plus ce sera automatisé, plus ça pourra être humain pour le reste, mais globalement voilà, il y a quand même une part qui doit être faite par des humains encore actuellement, et bah c'est pas facile. Parce qu'on demande aux humains d'être des robots, de fait, ouais. Clairement, pour Amazon, mais c'est logique en même temps, c'est de l'industrialisation à une échelle mondiale. Leur employé idéal, c'est un robot. Mais à ce compte-là, autant mettre des robots. Alors, partenaire, c'est un niveau demandé. Je crois que c'est un truc du style 500 subs au mois. Non, je sais plus combien de temps pour avoir le 70-30, d'accord. Le syndicat des robots. Et pourquoi pas. Il y a même le cas où les gens entraient plus chez eux, mais campaient dans les bois, dans des tentes. Oui, bah. Mais en fait, on dit d'Amazon, hein, mais globalement, c'est pas que chez Amazon. Mais poussé à l'extrême chez Amazon, mais cette tendance-là, ces principes derrière, vous les retrouvez chez tous vos managers actuels. L'idée que plus tu bosses, plus tu es là en présentiel, plus tu fais des grandes amplitudes horaires, plus tu es un employé modèle, déjà, ça c'est une fausse idée déjà d'une, mais elle est extrêmement répandue chez les managers, l'amplitude horaire. Et crée tout un tas de comportements débiles où tu te retrouves à être présentiel, mais tu fous rien, mais juste tu es là, quoi. Pareil, l'idée de faire des pauses les plus petites possibles. Quand j'ai commencé mon premier taf après mon école d'ingénieur, la pause, c'était midi et demi, 14h. Midi et demi, 14h, c'est-à-dire bah, une heure et demie. Maintenant, le standard dans les grandes entreprises, c'est plutôt 45 minutes. c'est 45 minutes pour ta pause pour manger. Alors plus ou moins selon les boîtes, hein, bien sûr, mais le standard, j'entends. Vraiment le global. Au tout début, j'ai pas non plus 50 000 ans de carrière, mais même déjà à mon époque de plus post-ingénieur, enfin post-diplômé, par exemple, les pauses, enfin, on avait rien à foutre du temps que tu prenais en pause. Si tu restais 20 minutes à la machine à café, tu restais 20 minutes à la machine à café, peu importe. Maintenant, c'est un privilège pour les cadres. Mais les ouvriers, ils restent pas 20 minutes à la machine à café. Hein. Ils se font engueuler. Donc, on a chronométré énormément pour faire que tu sois devant ton poste de travail le maximum de temps possible. Et vous voyez, c'est pas Amazon, ça. Hein. C'est tout le monde, en fait. Alors que c'était prouvé scientifiquement, je ne sais combien de fois, que être devant ta machine, c'est pas ça qui te rend productif, en fait, globalement. Tu peux être extrêmement productif. Enfin, tu peux avoir, effectué beaucoup plus de boulot en étant 3 heures devant ton écran qu'un mec qui va être devant 7 heures devant, mais qui va pas en foutre beaucoup plus, tu vois. Donc, la productivité, elle est pas liée juste au fait d'être présent ou pas devant ton poste de travail, quoi. Donc, c'est idiot. C'était déjà idiot il y a 20 ans, c'est toujours idiot maintenant. Et donc, j'ai garé mon bateau, mais j'ai oublié d'aller chercher mon trésor, c'est dommage. Si j'allais vendre mon trésor, ce serait bien. Moi, 45 minutes, ça me va si on part à 16h30 ou 17h. Oui, bah après, c'est... Chaque boîte a des conditions... Enfin, en France, ça va, on n'est pas non plus... Globalement, ça reste des conditions humaines. En tout cas, c'est pas Amazon, ça c'est sûr. Mais je peux comprendre que dans des pays où il n'y a pas de syndicats, ce qui est en train de devenir la France quand même, hein, mine de rien, parce que les syndicalistes, on les voit plus trop, forcément, dans les pays où il n'y a pas trop de syndicats, ça peut vite déborder et prendre des tournures pas du tout humaines, là, pour le coup. En France, on a encore suffisamment de syndicats pour que... On a un historique, en tout cas, pour que... T'es obligé de considérer les employés comme des gens. Ça emmerde les patrons, mais voilà, t'es quand même encore obligé de le faire. Alors après, pas toutes les boîtes, bien sûr. Oui, je sais, votre patron à vous, il est génial. Votre boîte à vous, elle est géniale. Je sais, je généralise. N'empêche que, en moyenne, les patrons sont plus là pour vous faire bosser le maximum que pour votre bien-être. Voilà. Ils sont pas là pour que vous soyez heureux. Ils sont là pour que la boîte marche bien. Merci pour ton flow, Ice Cream Guy. Merci beaucoup. Je confirme, faire du 7h-16h, c'est très mal vu, alors que faire du 10h-19h, c'est mieux vu. Ouais, il y a ça. Bah, après, moi, maintenant, je suis en home office, télétravail, appelez ça comme vous voulez. Donc, du coup, mes horaires, ils sont extra... Enfin, j'ai toujours eu des horaires fluctuants parce que j'étais assimilé cadre. Donc, en fait, on compte pas nos heures. C'est un peu particulier. On n'a pas d'heure sup. Mais du coup, on démarre, on s'arrête un peu n'importe quand, suivant le boulot, quoi. On peut finir, par exemple, à 20h. Comme on peut finir à 16, quoi, globalement. Mais bon, maintenant, je suis en télétravail, donc mon travail, il n'est pas... j'ai pas une caméra... Enfin, si, de fait, j'ai une caméra devant moi, pointée 24h sur 24 sur moi, mais elle n'est pas allumée. Donc, mon patron, il la voit pas, cette caméra-là. Et donc, du coup, voilà, je bosse dans ma journée, je fais mon taf, et je pointe pas, il n'y a pas d'heure exacte qui dit t'as travaillé de telle heure à telle heure, tu vois. Donc bon, ça c'est le privilège du home office. Ce qui fait d'ailleurs que les gens aiment pas trop, enfin les managers aiment pas trop le home office, et qui fait qu'il y a eu autant de mal à instaurer le télétravail pendant cette période de Covid. Parce que bah, justement, les managers pouvaient pas te chronométrer, quoi. Hein. Ils savaient pas si t'étais devant ton ordi en train de bosser. Déjà, tu pouvais ne pas être devant ton ordi, ou tu pouvais ne pas être en train de bosser. Donc ça a emmerdé. Et pourtant, de tous les gens que je connais, durant cette période-là où ils étaient en télétravail, ils n'ont jamais aussi bien bossé. Parce que justement, ils étaient pas emmerdés par leur manager, ils étaient concentrés sur ce qu'ils faisaient, ils étaient dans un cadre agréable, et tu gagnais en productivité, voilà. C'est tout bête, mais putain, c'est la base. Mais quand t'es manager, apparemment, faut arrêter de réfléchir, donc c'est plus... Ils n'ont pas compris, ça. Alors, il y a sûrement qui ont compris, hein, mais pas tous. Mon patron ne voit pas cette caméra, lundi matin, coucou. Ah non, mais je maîtrise. Alors, c'est l'avantage d'être un mec qui bosse dans la cybersécurité, c'est que je sais un petit peu comment fonctionne mon matériel. Et donc, il peut le voir, ma caméra, pendant le live. Donc, il sait que là, je suis en train de ne pas travailler pour lui, mais on est dimanche, donc j'ai le droit. Et donc, voilà, il y a pas de souci, on est d'accord. À propos de télétravail caméra, est-ce qu'un employeur a le droit d'allumer la webcam sans prévenir ses employés pour les fliquer? Alors, non, non, absolument pas. Et s'il te dit le contraire, bah, c'est qu'il ment, tout simplement. Ou que personne lui a collé un procès, mais non, non, il n'a pas le droit. Strictement interdit. En France, en tout cas. Le seul cas, je crois, que j'ai vu où t'as des. Tu oblig... Enfin, tu l'allumes pas à la place, mais tu obliges la caméra d'être allumée, c'est quand, par exemple, tu passes un examen. Genre, tu fais une formation. On imagine t'es en full télétravail, hein, mais tu fais une formation et à la fin t'as un examen pour valider ta formation. Bon bah l'examen étant en télétravail, on te demande d'avoir une caméra d'allumer pour que l'examinateur puisse te surveiller en permanence pendant l'examen. Voilà, bon, c'est logique, c'est le mec qui te surveille pendant l'examen. Alors c'est contournable, hein, bien sûr, on peut tricher de mille et une façons, mais c'est pas déconnant qu'il te demande ça, quoi. Mais c'est dans un cas très précis et il l'allume pas à ta place. C'est toi qui décides de l'allumer. Il y a aucune loi en fait qui t'oblige à allumer ta caméra. Globalement, c'est très très simple, hein. Ça n'existe pas dans le code français. Alors ça viendra peut-être, hein, mais là actuellement, tu peux refuser d'avoir la caméra tout le temps, même si tu fais du zoom, tu vois, des trucs comme ça. Si tu veux pas la caméra, tu mets pas la caméra. Tu te feras mal voir, il y aura d'autres problèmes. Si tu veux, c'est plus une pression sociale. Mais il y a aucune loi qui t'impose d'avoir une caméra chez toi. C'est pas une atteinte à la vie privée quand même, ça. Si, tout à fait, mais ce sont des pratiques qui se font, surtout depuis la démocratie du travail. Bah, honnêtement, s'il y a un employé qui s'est vu faire ça, c'est-à-dire, vraiment, là je reprends bien ta phrase, il allume la caméra à la place de l'employé. Si un patron fait ça, tu peux le poursuivre au prud'homme, direct. Direct. Et c'est illégal. Après, qu'il y ait une pression sociale pour que l'employé ouvre sa caméra, on va dire c'est moins illégal, parce qu'il ne fait que demander, bon, il demande avec insistance, mais il demande, mais normalement, il n'y a rien qui oblige l'employé à dire oui, en fait. Il n'y a pas de loi là-dessus. Bon, bah, ma foi, avec tout ça, on est arrivé tranquillement à l'heure de fin de ce live. Globalement, bon, j'avais pas grand-chose de plus, hein, de toute façon, sur mon ticket. J'ai noté Spring for Shell, donc je vous en parle vite fait. Spring for Shell, qui est une faille qui est tombée il n'y a pas très longtemps, mais en fait, le problème, c'est que comme j'étais malade, j'ai pas eu le temps de me renseigner plus dessus. Donc je sais qu'elle existe, je sais que c'est une faille importante dans le moteur Spring, donc Java, qui est assez grosse. Donc il faudra probablement surveiller de près. Pour autant, j'ai pas eu le temps de m'enseigner sur la technique du truc, donc je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Donc, je vous la cite comme ça si vous voulez aller chercher de votre côté, histoire d'être complet. Mais c'est vrai qu'on a tellement papoté sur d'autres trucs que je n'ai pas abordé le sujet, puis ça tombe bien, parce que je vous dis, j'ai pas vraiment eu le temps de chercher dessus. Voilà donc du coup pour cette émission un petit peu plus calme, mais globalement, je pense qu'il était intéressante. Bonjour, ben j'arrive trop tard. Et oui, tu es la fameuse personne qui arrive à la fin. Aujourd'hui, c'est toi. Il y en a toujours un, hein, ne t'inquiète pas. Hein, c'est pas. Tu n'es qu'un parmi les autres. Il n'y a pas de honte à avoir. En tout cas, du coup, ce live sera bien évidemment disponible en replay dès demain sur YouTube, sur toutes les plateformes. Alors toutes, beaucoup de plateformes de podcasts, hein, puisque vous savez que maintenant les Piratalks sont rediffusés en audio, en podcast, alors notamment sur Spotify, sur. Qu'est-ce qu'on m'a fait ajouter l'autre jour? Google Podcast, je crois, elle s'appelle. Et Deezer, voilà. Donc je suis sur ces trois-là, normalement. Donc, c'est pareil, je vous le mettrai à disposition là, à partir de demain lundi. Bonjour YouTube, si tu me regardes et qu'on est lundi. Et sinon, donc du coup, la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y aura un live. Désolé, encore une fois, ça tombe sur les Live Vikings, vous n'avez pas de chance. Mais bon, normalement, c'est Live Viking, hein, dimanche prochain. Je ne suis pas sûr qu'il y en aura un, donc à voir. Et donc, ça, c'est la semaine prochaine. Et donc, dimanche Live Viking, c'est. On fait un catch the flag. Pour l'instant, je n'ai pas déterminé de qui. Quelle sera la machine qu'on va faire. Et donc, dans 15 jours, prochain Pirate Talk. Avec toutes les nouveautés, on parlera sûrement encore des élections puisqu'on sera dans le deuxième tour. Dans 15 jours. Non, on sera dans le. Non, on aura fini. Oh, je ne sais plus. Il y a 15 jours ou il y a une semaine entre les deux tours? Bon, en tout cas, on verra. Donc, si tout va bien, la semaine prochaine, Live Viking, dans 15 jours, Live Pirate Talk. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne élection. Une bonne campagne, qu'est-ce que ça puisse donner, et puis bon courage à tous. Et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.